Je vais vous inviter à aller dans le livre aux Hébreux, le chapitre 5 et le verset 11. Voilà ce que nous pouvons lire. Nous avons beaucoup de choses à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venu à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est encore au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide, elle est pour les hommes faits et les femmes, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Amen. Vous allez me dire, il attaque fort là. Bien sûr, je pense que vous avez compris que dans ce texte, il y a deux catégories de personnes et qu'il ne faut pas se laisser interpeller que par la première, même si c'est quand même ça questionne. C'est-à-dire que le pasteur qui a écrit cette lettre a voulu interpeller les croyants à qui il écrivait. Des personnes qui auraient dû en être à une expérience, une maturité, et qui ont été comparées à des enfants. Donc c'est ça, en fait, les deux catégories. Il y a les enfants et il y a les adultes, spirituellement parlant. C'est pas question d'âge du tout. Il y a ceux qui en sont au lait, et puis il y a ceux qui en sont à la côte à l'os, spirituelle, si on peut dire ça. Alors, je parle pas du repas de midi. Ne pensez pas à ce que vous avez dans le four qui est en train de cuire. C'est pas ça. Non, non, c'est spirituel, ce dont je suis en train de parler. Et en fait, la question que je voudrais qu'on se pose, c'est dans quelle catégorie est-ce que nous pensons nous placer? Est-ce que nous sommes dans celle des enfants, nous reconnaissons que nous manquons de maturité, ou alors, au contraire, nous savons que, par la grâce de Dieu, nous avons acquis l'expérience spirituelle et nous pouvons avancer avec le Seigneur, mais on sait qu'on a toujours beaucoup à apprendre. On aura beau avoir dépassé les 100 ans, même Mathusalem, il était à 969, et je suis sûr qu'il avait encore des choses à apprendre. C'est pas une question d'âge. Tiens, par curiosité, qui sont ceux qui se sont fait baptiser depuis plus de 10 ans? Levez la main. Depuis plus de 20 ans? Depuis plus de 30? Voilà, il y en a quelques-uns. Depuis plus de 40? Il y en a 50, qui dit mieux? Bon, 60, il y en a. C'est magnifique d'avoir déjà des dizaines et des dizaines d'années de marche avec le Seigneur. Et on s'aperçoit que le temps passe vite et on apprend toujours finalement. Mais c'est pas parce que j'ai vécu ces choses-là que forcément j'ai la maturité spirituelle. C'est là le point où je veux en venir. Tant mieux si on a vécu de longues années avec le Seigneur. Mais ce que je remarque avec les années, avec justement l'expérience, et en tant que pasteur dans différentes églises, je me suis aperçu que parfois, on trouve des chrétiens qui ont fait la paix avec Dieu depuis des années et des années, et qui ont moins de maturité que certains qui viennent juste de se convertir. Et c'est terrible. Alors, je suis pas là en train de pointer le doigt sur qui que ce soit ce matin, c'est pas du tout l'objectif. L'objectif, c'est de dire comment est-ce que je peux avoir et grandir dans la maturité spirituelle. Parce que c'est ça, ce qui est dit dans ce texte. La parole de Dieu, c'est merveilleux. Quand on est jeune, quand on est enfant, c'est du lait pour nous, on peut l'assimiler facilement. On comprend l'amour de Dieu, on comprend les choses essentielles. Dieu veut me sauver, il a donné son fils à la croix. C'est merveilleux. Mais quand on grandit, la parole de Dieu devient de la nourriture solide. Il y a quelque chose de consistant que le Saint-Esprit nous aide à vivre et à connaître. Ce qui donne la maturité spirituelle, ce n'est pas l'âge, c'est le temps où que l'on passe vraiment dans la communion avec le Saint-Esprit. C'est la conclusion que je vous donne avant de développer, mais c'est le principal. Le temps de qualité que je passe avec le Saint-Esprit. C'est ça qui permet que ma maturité grandisse. Être avec quelqu'un, quand on passe du temps avec quelqu'un, forcément, on apprend à le connaître et à un moment donné, on doit bien le connaître. Et quand c'est avec le Saint-Esprit, c'est exactement la même chose. Mais ce que je me suis aperçu, c'est que parfois, des gens qui devraient, qui auraient dû connaître bien les réalités spirituelles, ne les connaissent pas bien, malgré les années. Donc c'est qu'il y a quelque chose qui a failli quelque part. Mais le but, ce n'est pas de juger, le but, c'est de dire il y a une solution. C'est la communion avec le Saint-Esprit. De l'Apocalypse, enfin je le fais à l'envers, de la Genèse à l'Apocalypse, le Saint-Esprit se révèle dans tous les livres de la parole. Et si on étudie chaque livre en particulier, on va apprendre quelque chose du Saint-Esprit. Et on va le faire pour nous ce matin en se cantonnant au livre, à la lettre aux Romains. Et on va s'apercevoir que Paul a parlé beaucoup de comment est-ce qu'on vit les actions du Saint-Esprit. Comment le croyant peut discerner tout cela. Comment est-ce que le Saint-Esprit agit en nous. Il veut nous conduire. Il nous forme à servir. Il veut faire mourir. Il veut nous soutenir. Et on va commencer avec Romains chapitre 8, verset 14, qui est très clair. Le Saint-Esprit veut nous conduire. Ça, c'est une réalité. Et c'est dit de manière magistrale, solennelle, dans ce verset qu'on va lire. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Vous êtes d'accord? C'est quand même du sérieux, là. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ça veut dire, si on le prend à l'envers, que ceux qui ne sont pas conduits par le Saint-Esprit ne sont pas fils de Dieu. Ça ne veut pas parler de ces moments passagers où on a manqué, on n'a pas écouté la voix du Saint-Esprit, mais si c'est une habitude récurrente dans notre vie, on doit se poser des questions. Le Saint-Esprit nous conduit et c'est une marque du fait que nous sommes fils de Dieu. Le Saint-Esprit veut nous conduire. Regardez la suite. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit veut nous conduire. Mais comment est-ce que le Saint-Esprit s'y prend pour nous conduire? C'est ça la question en fait. Mais c'est très simple, on vient de le lire. L'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Le Saint-Esprit passe son temps à rendre des témoignages intérieurs. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et je suis sûr que même pour les chrétiens dont je parlais qui n'ont pas cette maturité spirituelle malgré les années, le Saint-Esprit parlait. Le Saint-Esprit voulait les conduire et veut encore les conduire. Mais s'il y a manque de maturité, c'est parce qu'ils n'ont pas voulu ouvrir l'oreille pour entendre, tout simplement. Dieu parle. L'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alors que je réfléchissais à cela, je pensais à un frère jeune converti, jeune baptisé, qui discutait avec un de ses amis. Et un de ses amis qui est, on va dire, une sorte de pasteur dans une autre dénomination. Et ce premier homme, il racontait comment est-ce que le Saint-Esprit, comment Dieu parlait à son cœur, comment souvent il expérimentait la voix de Dieu qui le dirigeait dans certaines situations. Et le monsieur en face, qui est responsable dans une église, disait « Ah, moi j'ai jamais vécu ça, j'aimerais bien le vivre. » Et je me suis dit, intérieurement, mais qu'est-ce qu'il prêche? Qu'est-ce qu'il enseigne? Quelqu'un qui a une responsabilité religieuse et qui dit « Je n'ai jamais entendu Dieu me parler à l'intérieur. » Ah, je ne parle pas d'entendre des voix à la Jeanne d'Arc, pas du tout. Mais ce témoignage intérieur de la présence du Saint-Esprit, de la paix avec Dieu, de l'amour de Dieu, le Saint-Esprit répand dans nos cœurs l'amour du Seigneur. Tout ça, c'est vital, vous êtes d'accord? Quand on a fait la paix avec Dieu, c'est la première chose qui se passe. Au début, on a du mal à mettre des mots sur les réalités que l'on vit, mais on sait que ça se passe. Combien de fois le Seigneur nous a orientés, dirigés, conduits, nous a mis une pensée à l'esprit qui, on ne sait pas d'où elle vient, si en fait elle vient du Saint-Esprit, mais qui était la bonne pensée, la bonne réponse, la bonne chose à faire. Et j'étais peiné en entendant ce témoignage de ce monsieur qui disait, mais moi j'ai jamais entendu. Jésus va dire aux pharisiens, vous savez, vous n'avez jamais entendu sa voix. Vous n'avez jamais vu sa face. C'était les pharisiens, c'était les docteurs de la loi qui, tous les dimanches, non, tous les samedis, à la synagogue, ils étaient là en train d'annoncer la loi. Jésus leur dit, vous n'avez jamais connu, jamais entendu la voix du Seigneur. Ça, là aussi, il faut l'accepter de l'entendre, cette parole. Mais est-ce que Jésus a dit ça pour les fâcher? Ou est-ce qu'il a dit ça pour les faire réfléchir? Que le Seigneur nous aide justement à être docile, à écouter, à avoir cette oreille attentive à son Saint-Esprit. Il y a un témoignage intérieur dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Nous savons tous, il y a un verset qui le dit clairement, Jésus est l'avocat auprès du Père. Amen, on est content de ça. Jésus, il intercède pour nous auprès du Père. Mais savez-vous que le Saint-Esprit, c'est l'avocat du Père auprès de nous? Il intercède à l'intérieur en nous disant « Tu es un enfant de Dieu, tu appartiens au Seigneur et tu dois faire ceci, tu dois avoir une vie sainte, fais telle ou telle chose. » Il nous conduit, le Seigneur, par le Saint-Esprit qu'il a mis en nous. Mais nous devons être attentifs. Et justement, cet homme, ce religieux, devrait se poser, j'espère qu'il se posera la question un jour, « Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire ?» Parce que le Saint-Esprit parle. Je vous le dis depuis le début de ce culte, peut-être même avant, le Saint-Esprit a parlé. Mais est-ce que nous avons écouté? Il a parlé par un chant, par une parole avec quelqu'un, par une prière, par une prophétie, par la parole. Le Saint-Esprit parle continuellement. Et c'est à nous de laisser notre oreille s'ouvrir. Vous allez me dire, mais moi si je ne suis pas croyant né de l'Esprit, qu'est-ce que le Saint-Esprit va me dire? Il ne va pas me dire, tu es fils de Dieu. Ah bah Père, non, non. Il va dire, soyez réconciliés avec Dieu. C'est aussi simple que ça. Le Saint-Esprit parle, même aux non-croyants, en les pressant de se donner au Seigneur. Mais on fait tout pour ne pas écouter souvent, quand on ne croit pas. Mais le Seigneur sait trouver les moments, les créneaux, les opportunités pour que notre oreille spirituelle puisse s'ouvrir. Regardez le chapitre 9, le verset 1er, c'est juste à côté. Regardez ce que Paul dit. C'est très intéressant de voir comment Paul explique sa vie spirituelle. Juste le premier verset, je dis la vérité en Christ. Je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. Ma conscience me rend témoignage par le Saint-Esprit. Dit sous une autre forme, le Saint-Esprit parle à la conscience. Savez-vous que le Saint-Esprit parle à notre conscience? Et il le fait de manière continuelle. Il le fait toujours. C'est pour cela d'ailleurs qu'on a dit tout à l'heure, quand on a lu le premier verset, ce dont le jugement est exercé à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Qu'est-ce qui nous permet d'aiguiser notre conscience? La conscience, c'est comme un couteau, c'est quelque chose qui doit s'aiguiser, parce qu'avec le temps, ça s'émousse, avec le temps, ça perd du tranchant. Et c'est le Saint-Esprit, en parlant à notre conscience, qui nous permet d'avoir ce discernement. Le fait de lire la parole de Dieu animée du Saint-Esprit me donne le discernement pour savoir ce que je dois faire ou ce que je ne dois pas faire, ce qui est bien et ce qui est mal. La parole est vivante, elle est efficace, elle juge entre les pensées et les sentiments. Voilà ce que fait la parole de Dieu et le Saint-Esprit au travers de la parole de Dieu. Et nous devons prêter attention à tout cela. Est-ce que nous sommes attentifs à ce qui se passe dans notre conscience? Ou alors, de temps en temps, on dit, bon, après tout, c'est pas trop grave. Vous savez, il y a quelque chose qui est dangereux pour la foi, ça s'appelle, je trouvais le mot, la complaisance. La complaisance, c'est de dire, petit à petit, j'accepte ce que avant je rejetais radicalement. Avant je ne supportais pas certaines choses et puis avec le temps, j'accepte. Oh, après tout, tout le monde le fait. Oh, personne ne le verra. Vous savez, quand on commence à avoir ce genre de raisonnement-là, c'est dangereux parce que le Saint-Esprit, lui, il est en train de parler à notre conscience. Mais qu'est-ce que tu fais? Change d'endroit, change de chemin. Et nous, on trouve des excuses qui font qu'on va se complaire dans ces choses-là, mais quand le Saint-Esprit nous conduit, quand on fait attention à ce que nous dit notre conscience, on fait des progrès. Et personne, pas l'ennemi, même pas les plans de l'ennemi, ne pourra empêcher un chrétien de faire des progrès avec le Seigneur, un chrétien qui veille sur sa conscience. Paul va parler de sa conscience pure. Et nous avons par la foi, par la grâce de Dieu, par le sang de Jésus, une conscience pure. Et si ce n'était pas le cas, j'espère qu'au moment de la Sainte Cène, vous avez profité de cet instant pour dire « Seigneur, pardonne-moi, purifie ma conscience comme tout à nouveau, comme au premier jour. Je veux avoir cette conscience pure. Je ne veux qu'il y ait rien qui m'empêche d'entendre la voix du Saint-Esprit. » Regardez dans Romains 8, on revient, mais au verset 5. Romains 8, verset 5. « Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. » Une clé de la communion avec le Saint-Esprit, c'est qu'il éclaire même nos émotions. Vous savez que nos sentiments ne sont pas neutres. Derrière nos sentiments, il y a des causes et il y a aussi des conséquences. Vous savez, c'est comme quand quelqu'un s'assoit sur un banc qui vient juste d'être repeint. On va sortir du banc avec une marque sur nous. Et c'est comme si c'était le sentiment qui vient s'asseoir dans notre cœur et qui va être marqué par l'ambiance fraîche de notre cœur. Alors si c'est positif, si c'est rempli du Saint-Esprit, nos sentiments vont être marqués par le Saint-Esprit. Mais si c'est la chair, c'est ce qui nous dit ce passage, ben c'est la chair qui va marquer même nos sentiments et qui peut nous tromper. Nos sentiments sont teintés par ce qu'il y a en nous. Est-ce que c'est bien d'être joyeux ? Je vous prends un exemple. Est-ce que c'est bien d'être joyeux ? Est-ce que c'est bien d'être toujours joyeux ? En fait, je vous donne un piège là. Est-ce que c'est bien ? Je vous donne l'exemple. Je suis joyeux parce que quelqu'un s'est moqué de moi et il vient de faire une mauvaise chute. Je suis joyeux du coup. Est-ce que c'est bien ? Ben non. Parce que derrière, c'est la vengeance, c'est non-assistance à personne en danger, etc. Et maintenant, je suis joyeux parce que quelqu'un qui m'a fait du mal a failli tomber, mais j'ai réussi à le détourner. Et je suis content. Bon, c'est surnaturel parce que, justement, la nature charnelle veut que quelqu'un qui nous fasse du mal, il paye. Mais le Saint-Esprit, lui, nous dit d'aimer même nos ennemis. Et vous voyez que les sentiments, ce n'est pas eux qui doivent diriger, mais c'est le Saint-Esprit en nous qui doit nous montrer si tel ou tel sentiment est là. Si ça se présentait, parce qu'on est humain, que quelqu'un nous a fait du mal, et à un moment donné, on pense mal, mais tout de suite, le Saint-Esprit parle à notre conscience. Attention, tu es en train de mal penser. Prie pour ton ennemi, aime ton ennemi et change ton comportement. Et si tu peux lui faire du bien, fais du bien à ton ennemi. Et c'est ça. C'est ça qui se passe. Le Saint-Esprit éclaire nos émotions. Il nous montre ceux qui sont bons. On l'a dit, il juge les pensées et les sentiments. Il y a des bonnes pensées, il y a des bons sentiments, et puis il y a des mauvaises pensées, des mauvais sentiments. Et le Saint-Esprit nous montre aussi quelles sont les conséquences. Si tel ou tel sentiment perdure dans mon cœur, ben ça peut m'amener à faire des mauvaises choses. Vous avez remarqué, quand Jésus il est dit qu'il a été rempli du Saint-Esprit, où c'est que le Saint-Esprit l'a conduit? Il fut conduit par le Saint-Esprit. C'est merveilleux, on voit déjà une application pratique de ce qu'on est en train de dire. Ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Où c'est que le Saint-Esprit a conduit Jésus? Dans le désert. Qui veut aller dans le désert? Je lui paye le billet. Mais personne ne veut y aller. Humainement, personne ne veut y aller. Mais il est clairement précisé dans la parole, c'est conduit par le Saint-Esprit que Jésus est allé dans le désert. Et qu'est-ce qu'il attendait là-bas? C'était pas un hôtel 4 étoiles, c'était 40 jours de jeûne et prière et de combat spirituel. Mais c'est le Saint-Esprit qui l'a conduit là. Le Saint-Esprit nous montre où on doit aller. Même si ce sont des endroits que l'on ne veut pas humainement, parfois le Saint-Esprit nous dit d'y aller quand même. Parce que c'est sa volonté. Et c'est pas pour rien qu'il nous le demande, c'est parce qu'il sait ce que cela rapporte. Jésus a été, en sortant du désert, vous savez ce qui s'est passé, revêtu de la puissance d'en haut pour commencer son ministère puissamment. Ça valait la peine quand même. Quand on voit ce que Jésus a fait après, ça valait la peine qu'il prenne 40 jours dans le désert. Même si humainement, c'est pas agréable. Mais c'est le Saint-Esprit qui conduit. Et nous devons dire, Seigneur, conduis-moi. Seigneur, dirige-moi. J'ai besoin de recevoir tes directives et de les mettre en pratique. On va aller dans Romains, chapitre 1er, et le verset 9, le Saint-Esprit veut nous conduire, le Saint-Esprit veut nous apprendre à servir. Romains chapitre 1er, verset 9. Dieu, que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils, mes témoins, que je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin par sa volonté le bonheur d'aller vers vous. Dieu, écoutez cette expression qui m'a un jour, quand je l'ai lue, m'a interpellé. Dieu, que je sers en mon esprit. Ça veut dire que ce que le Seigneur attend en tout premier de notre service, ce n'est pas une œuvre que nous pouvons faire. C'est quelque chose de spirituel, d'intérieur. Et le Saint-Esprit profite de chaque occasion que nous rencontrons. Le Saint-Esprit profite de toutes les choses qui se passent et qui nous touchent, les épreuves, les mauvaises nouvelles, les blessures, les circonstances contraires. Tout ça, ce sont des occasions, des opportunités pour que nous apprenions à servir le Seigneur. Comment est-ce que je vais réagir quand je vais être confronté à l'épreuve? Est-ce que je peux dire comme Paul, Dieu, que je sers dans mon esprit. Je veux servir le Seigneur de manière spirituelle. Bien sûr, on sait que Paul, servir de manière spirituelle, ça ne l'a pas amené dans son canapé en train d'avoir les bras croisés et de siroter sa limonade. D'accord ? Paul, il était partout. Mais la première chose qu'il faisait, il servait Dieu dans son esprit. Frères et sœurs, ça c'est un secret de la maturité. Quand on a compris qu'on sert le Seigneur, pas sur l'estrade, mais d'abord dans son esprit. D'abord devant Dieu, dans le secret de notre cœur. Il n'y a que Dieu qui voit ce qui se passe dans notre cœur. Et ça, c'est tellement important parce que ça prend en compte tous les moments où je suis à la maison, où je suis dans la voiture, où je suis avec des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, ou quand je suis tout seul. Est-ce que je suis en train de servir le Seigneur? Dieu, que je sers dans mon esprit, dans l'évangile de son Fils. En fait, il y a deux issues. Soit on se soumet à la volonté de Dieu, soit on se rebelle. Paul va parler de ceux qui ne servent pas le Christ, mais qui servent leur propre ventre. Aujourd'hui, on dirait leur nombril, ou leur ego, ou leur pomme, pour le dire de façon claire. Ceux qui pensent qu'à eux dans le service, mais c'est pas ça dont il est question. Ceux qui servent Christ, ce sont ceux qui, en tout lieu, en tout temps, dans tous les aspects de la vie, ils servent le Seigneur. Ça veut pas dire parler continuellement. Parfois, on a vu des personnes qui parlent du Seigneur, mais qui le font pas intelligemment et qui fatiguent tous ceux qui les écoutent. On en a tous vu. Il faut être sage. Il faut être mesuré, sobre dans nos paroles, mais il faut servir le Seigneur surtout à l'intérieur. Et à mesure qu'on le fait, le Seigneur nous remplit pour avoir ce Saint-Esprit qui va déborder autour de nous. Romains chapitre 12, verset 11, regardez, c'est la même pensée qui est là. Vous savez, c'est plusieurs conseils qui sont donnés par Paul aux Romains. Romains 12, 11, la fin du verset 10 pour certaines versions. « Ayez du zèle et non de la paresse. » Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Amen. On peut lire tous les versets en les cloisonnant, ou alors on peut les lire en les combinant, et c'est tellement plus intéressant. Ayez du zèle et non la paresse. Oh oui, moi j'ai du zèle, moi je veux déplacer une montagne. S'il faut déplacer l'église brique par brique de l'autre côté, je veux le faire. Pasteur, dites-moi ce qu'il faut faire. Oui, ayez du zèle, soyez fervents d'esprit. Donc, ayez du zèle pour votre vie spirituelle d'abord. Soyez bouillonnant à l'intérieur, attentif à tout ce qui se passe du Saint-Esprit en vous et servez le Seigneur dans ces conditions-là. Vous voyez là la sagesse de Dieu qui nous montre ce que nous devons faire. D'ailleurs, Jésus va dire à une des églises de l'Apocalypse, ayez du zèle. Et qu'est-ce qu'il va lui dire après? Comment est-ce que ce zèle doit se manifester? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Repends-toi. Quoi? C'est tout? Ben oui, mais c'est suffisant. Et avoir du zèle, parfois qu'on pense le zèle à plein d'œuvres, alors que le zèle, ça commence à l'intérieur. le zèle de se repentir. Il faut du zèle pour se repentir. Parce qu'il faut accepter qu'on a mal fait et le Seigneur nous pardonne. À un moment donné, les gens vont venir voir Jésus, ils vont dire « Oh Seigneur, c'est merveilleux tout ce que tu dis. Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu ?» Faire, presque. Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu ? C'est une drôle de question hein, quand on y réfléchit. Et Jésus, j'aime sa réponse. Pour faire l'œuvre de Dieu, il faut croire. C'est tout. Croire à celui qui m'a envoyé. Vous voyez, souvent, on va dans les choses matérielles tout de suite et on ne prend pas le temps de laisser le Saint-Esprit nous rendre fervents dans les choses spirituelles. Soyons fervents d'esprit. Laissons le Saint-Esprit parler à notre cœur et agir en profondeur. Servons-le dans ces conditions-là. Regardez dans le chapitre 14 encore, je vous prends, il y a plusieurs textes, hein. Je pourrais passer la journée à le faire. Je vais quand même avancer, vous inquiétez pas, mais regardez Romains 14, verset 17, qui parle du service du Seigneur qui est agréable à Dieu. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Donc, abandonnez l'idée de votre rôti. Ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Vous avez lu comme moi. Celui qui sert Christ de cette manière. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire ? Il est question de justice, il est question de paix. Et il est question de joie. Alors, c'est pas la justice, il faut que je mette en pratique. Oui, ça on y viendra. Mais ça commence par la justice intérieure. Ça commence par la paix intérieure. Ça commence par la joie intérieure. Oh, merci Seigneur, parce qu'il y a des moments où le Seigneur se sert de la joie pour nous aiguiller. Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Ça montre qu'il y avait une direction du Saint-Esprit dans ce qu'il est en train de penser. Et le Saint-Esprit, parfois, nous met une joie qu'on ne comprend pas. Parce qu'on est en train d'avancer et de faire les choses pour son royaume. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, les choses de la terre qui passent. C'est la justice, la paix et la joie qui sont à l'intérieur de nous et qui nous permettent ensuite de manifester cette justice. Franchement, si nous parlons à tout le monde de la justice de Dieu, mais que nous la vivons pas nous-mêmes dans notre cœur, notre message, il est creux. Il ne sert à rien. Si nous parlons à tout le monde de l'amour de Dieu, mais que nous n'aimons pas nous-mêmes, la Bible dit qu'on est comme une cymbale qui retentit quand on n'a pas l'amour. On peut faire plein de choses, même donner des prophéties. Mais si on n'a pas l'amour, tout est gâché. Heureusement, le Saint-Esprit nous donne aussi cet amour dans notre cœur. Oh, il y aurait beaucoup de choses à dire. Je vais juste prendre avec vous ce verset, Romains 8, verset 13. Je vais terminer avec ce point-là. Romains 8, 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Amen. Il y a des mots qui font trembler et des mots qui réjouissent. Vous mourrez. Quand on entend ça, oh là là. Mais quand on entend vous vivrez. Mais frères et sœurs, c'est le message de la parole de Dieu ça. Je mets devant toi la vie et la mort. Depuis le début de la Bible jusqu'à la fin, c'est la même chose. Que celui qui est saint se sanctifie, que celui qui est impur continue son iniquité. Je mets devant toi la vie et la mort. Le Seigneur nous invite à être dans cette vie-là et il nous donne le secret, son Saint-Esprit. Il veut faire mourir. Vous allez me dire, mais qui ? Non, pas qui, heureusement. Quoi ? Ce qui en nous est terrestre, les actions du corps, ce qui est contaminé par la nature pécheresse, c'est ça que le Saint-Esprit veut faire mourir en nous. Et combien nous avons besoin d'entendre aussi la voix du Saint-Esprit qui nous appelle à renoncer à ces choses auxquelles il nous parle. Alors c'est pas moi qui vais venir, chacun en particulier, vous dire il faut que tu abandonnes ci, il faut que tu abandonnes ça. Non, c'est trop facile de dépendre de la voix d'un homme. C'est le Saint-Esprit qui doit faire ce travail dans notre cœur. Bien sûr que nous, on est là pour vous conseiller. Les pasteurs sont là pour donner les conseils. Mais on ne peut pas forcer les gens à obéir à la parole de Dieu. Dieu ne nous force pas déjà nous-mêmes à le faire. Il nous laisse la liberté. Mais le Saint-Esprit, une des particularités, c'est qu'il fait mourir ce qui dans nos corps est terrestre. Si Dieu nous disait à nous justement d'aller au désert, Peut-être qu'on dirait, ah non Seigneur, jamais. J'aime trop mon confort. J'aime bien manger. Je crains la chaleur, Seigneur, pas le désert. Mais ça, ce sont les actions du corps. Bien sûr, ce sont des bonnes excuses quelque part. Mais si le Seigneur nous le demande, c'est qu'il a une raison. Vous comprenez? On ne parle pas de tout remettre en question. Il faut que j'arrête de manger, c'est pas bien. Non! Mais si le Seigneur nous appelle à un temps de jeûne personnel et qu'on mange quand même, ça fait réfléchir. Et peut-être qu'on va passer à côté de quelque chose, d'une grâce. Jésus, il a fait mourir ceux qui étaient terrestres. Son corps lui disait de ne pas aller dans le désert, mais il y allait quand même, parce qu'il savait que c'était la volonté de son Père. Et il a été béni, et il a été une source de bénédiction. Il a été revêtu de cette puissance, et son ministère a amené la vie. Quand on vit la mort, c'est une loi biblique, spirituelle, évidente et bonne. Quand on vit une mort au nom du Seigneur, ça amène la vie. C'est une loi. Quand vous renoncez à quelque chose que le Saint-Esprit vous montre pour le nom du Seigneur, il va y avoir la vie derrière. C'est obligatoire. Si le grain qui est tombé en terre ne meurt, il ne peut porter du fruit. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. C'est écrit ou c'est pas écrit? Mais oui. Je ne l'ai pas inventé pour vous faire plaisir. C'est la parole de Dieu. Et combien on est béni de savoir que c'est la parole de Dieu. Le Saint-Esprit nous rappelle, nous remémore toutes ces choses. Un jour, je rencontrais une croyante qui n'était pas satisfaite d'être chrétienne. Elle voulait savoir si elle avait du sang juif. Et donc, elle a fait une prise de sang et elle a payé je ne sais pas combien pour envoyer sa prise de sang à un institut, un organisme spécialisé pour détecter si les origines dans les gènes et tout ça, pour savoir de quelle tribu elle pouvait dépendre, peut-être. Je l'ai rencontrée qu'une fois, cette dame, et c'était avant qu'elle ait le résultat, donc je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a des versets dans la Bible qui nous font réfléchir. Regardez Romains, je termine avec ce verset. Romains, chapitre 2, verset 29, qui nous montre que ce que Dieu attend, ce n'est pas quelque chose de physique. Tant mieux si quelqu'un est juif et il y a du sang juif, tant mieux. On n'est pas antisémite et on n'est pas pro-juif non plus. On aime les hommes et les femmes qui sont sur cette terre, c'est tout. Mais regardez ce que dit la parole de Dieu qui est claire. Romains 2, verset 29. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit, et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Amen. Vous voulez la louange de Dieu? Quoi, c'est possible? La louange de Dieu? Qu'est-ce que c'est? C'est une fausse doctrine. Mais c'est marqué, non? Alors, c'est pas que le Seigneur est en train de nous adorer, hein, rien à voir avec ça. Mais il y a son approbation. L'approbation de Dieu est sur celui qui est juif intérieurement. Vous êtes juif, vous le saviez pas, hein? Mais pas besoin de savoir de quelle tribu on est, de la tribu du Christ. C'est suffisant. Et c'est vrai qu'il y a de belles promesses pour le peuple juif, mais il y a de meilleures promesses encore pour l'Église. Le peuple juif va souffrir pendant la grande tribulation sur la terre. L'Église va être enlevée pendant la grande tribulation. Je ne sais pas ce que vous préférez, mais moi je préfère l'Église. Hein. Et je sais, je connais des hommes qui sont juifs de la tribu de Judas et qui ont fait la paix avec Dieu et qui sont sauvés et qui sont dans l'Église. Et c'est ça qui va avoir la priorité sur le fait qu'ils sont juifs. Parce qu'ils sont juifs d'abord intérieurement. Le Saint-Esprit veut nous amener à avoir ces coupures, à faire mourir ces choses qui sont mauvaises. On sait que l'image de la circoncision, c'est le fait de couper et le fait de devenir membre d'un peuple. C'est ce qui a été donné à Abraham pour faire montrer que c'était un peuple différent, la descendance d'Abraham. Mais spirituellement, c'est ce que Dieu fait en nous par son Saint-Esprit. Et à chaque fois que nous acceptons que le Seigneur fasse mourir des choses en nous, mais le Seigneur prépare une grâce derrière. Combien de fois j'ai pu vivre ces choses, d'abandonner, de renoncer, et finalement de retrouver parfois ceux que j'ai abandonnés, mais en beaucoup mieux, parce que le Seigneur a posé sa main, tout simplement. Frères et sœurs, nous avons besoin de laisser le Saint-Esprit œuvrer dans nos cœurs, dans nos vies. Nous avons besoin, on va fermer les yeux, parce que c'est encore le temps maintenant que le Saint-Esprit y agisse. Mais nous avons besoin d'ouvrir nos oreilles d'ouvrir nos cœurs, de laisser le Saint-Esprit aller jusque dans nos consciences. S'il y avait quelque chose, même là dans notre conscience, qui gêne, qui n'est pas agréable, le Seigneur veut poser sa main encore. Jésus, il est dit qu'il s'est offert par l'Esprit éternel. Il a offert son sang pour nous purifier dans nos consciences, de toute souillure. Le Saint-Esprit est là ce matin, mon frère, ma sœur. Laisse-le pénétrer. Demande-lui de renouveler le zèle, la ferveur, non pas une excitation extérieure, mais ce bouillonnement intérieur, ce cœur qui brûle à l'intérieur quand sa parole est annoncée et quand son action, ce Saint-Esprit est en train de graver cette parole au fond de ton cœur. Veille, veillons ensemble, soyons sensibles, soyons des hommes et des femmes faites, expérimentés, qui prennent la nourriture solide et qui font des progrès dans la foi et qui amènent aussi les autres à découvrir le Seigneur. Ô Seigneur, nous nous tenons devant toi ce matin avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de reconnaissance aussi, car nous considérons que tu nous as donné ton esprit. Merci parce que le Saint-Esprit est venu habiter en nous. Et merci parce que tu veux que nous puissions grandir en maturité à son contact. Ô Seigneur, combien de fois avons-nous fermé l'oreille, avons-nous endurci notre cœur, avons-nous été rebelles à l'image du peuple d'Israël? Mais combien de fois tu as persévéré, tu as insisté, et tu as changé notre cœur de pierre en cœur de chair. Seigneur, ce matin encore, fais-le, que ton Saint-Esprit aille au plus profond de nos âmes. Tu vois ces rochers qui sont là et que nous n'arrivons pas à déplacer par nous-mêmes et qui bouchent le passage. Seigneur, que ton Saint-Esprit puisse les déloger. Là où il y a besoin de repentance, donne le zèle de la repentance, Seigneur. Là où il y a le besoin de discernement, donne, Seigneur, le discernement pour faire les bons choix. Donne-nous d'être ceux qui servent dans notre esprit, Seigneur. Oui, nous avons besoin de toi. Et nous te remercions parce que ton amour est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Seigneur, encore ce matin, tu répands ton amour. Celui qui a peut-être pendant quelques instants oublié que tu l'aimais parce qu'il est dans l'épreuve, tu lui rappelles ce matin que tu es là et que tu l'aimes et que c'est suffisant pour affronter n'importe quelle épreuve. Merci Éternel. Visite Seigneur ce matin mon frère, ma sœur. Visite ceux qui sont affaiblis. Visite ceux qui sont abattus, ceux qui sont découragés, ceux qui sont dans leur maison peut-être, qui n'ont pu venir. Visite-les aussi par le Saint-Esprit, parce que tu n'es pas limité à des endroits géographiques, mais tu es tout-puissant. Et fais ton œuvre dans ton Église, Seigneur. À toi l'honneur et la gloire. Amen.